Allô! Bienvenue à Crime de Bine, votre podcast de true crime québécois et canadien.
Préféré!
On est là!
On est là!
Hélène et Mélanie, pour vous servir.
Je sais pas si on entend en arrière, en background,
non,
mais
sûrement pas.
On est dans le sous-sol chez Hélène, puis le son chien est en train de s'entraîner en haut sur un row machine.
Une roulette. Non, c'est une petite roulette d'abdos. Genre.
Oh shit, t'es capable de faire ça?
Ouais.
En tout cas, il se roule, puis... On l'entend un peu. Fait que si vous entendez, c'est ça.
Un fond de quelque chose, c'est ça.
Un fond de roulage.
Ouais.
Hey, on a du crime de potin aujourd'hui.
Oui.
Assez juicy.
Oui, vraiment.
Tu commences?
À l'épisode sur Sandra Gaudet.
Sandra Gaudet. Il
ouais.
y en a qui ça
oui.
s'est passé.
Ben, en fait, c'est ça. Ça a comme bien tombé que l'épisode... sortent en mars
vraiment.
Parce que, dans le fond, le procès de Billy Taillefer et Hugues Duguay contre
Val-d'Or,
la SQ aussi, je pense.
Oui,
en tout cas,
ils ont poursuivi pour 80 millions
ouais.
de dollars.
Ben ça a pas marché.
Ils ont perdu
en cours.
C'est capoté.
C'est vraiment de la grosse marde.
Ah, on va le dire,
c'est vraiment fâchant. Ces gars-là, ils méritent tellement... d'avoir un peu de justice pour toutes ces années de leur vie perdue.
Ah oui,
ils
ont fait de la prison, là.
Mais là, ils ont 30 jours pour amener la décision en appel. Mais là, au moment où on vous le dit, le 30 jours n'est pas écoulé.
Aujourd'hui, on est le 24 mars
ouais.
pour nous. OK. Fait que là, ça fait 3 semaines à peu près, puis ils ont 30 jours.
Fait que là, ça va se faire dans la prochaine semaine s'ils portent la décision en appel. Mais quand vous allez écouter l'épisode, ben on va le savoir.
Fait qu'on va vous tenir au courant.
Ouais, c'est sûr qu'on va, on va regarder ça, là.
Et aussi, sur le même sujet, il y a une rumeur qui court, OK? Vraiment pas fondée.
Ouais, c'est vraiment juste une rumeur, là.
Vraiment juste une rumeur. Puis il y a plusieurs personnes qui l'ont écrit sur Instagram. Mais ça a l'air que... Ben, je vais vous lire qu'est-ce que la personne a écrit. Une des familles les plus riches et influentes de l'époque de Sandra, donc début des années 90, était très amie avec le chef de la police et le juge. Donc, ce serait l'enfant de ce couple-là qui aurait 20-21 ans à l'époque qui aurait tué Sandra. Puis, avec leur influence, les parents auraient fait cacher l'affaire par leur contact à la police pour protéger leur enfant. Donc, ce serait pas le policier qui aurait pu tuer la petite ni Billy. Et
Hugues,
ce serait l'enfant d'un couple assez affluent dans l'époque.
C'est une rumeur. Ouais, c'est pas illogique, là.
Ça se peut.
S'il y a de la corruption, c'est
mais
comme...
tu sais, imagine le montant d'argent que les parents ont dû donner pour que tout ça...
Ouais.
Genre, il y en a des affaires puis du monde impliqué, là.
Ouais, vraiment, là.
Pour qu'ils soient allés jusque-là. C'est quoi le montant d'argent que ça prend pour que la SQ se rende là, tu sais?
Tout le monde a son prix.
Oh, t'as dit ça dans les podcasts aussi.
C'est vrai.
Fait qu'on sait pas. À suivre.
Ouais, à suivre.
Et aussi, fun fact, Marie-Lie nous a écrit sur Instagram, merci Marie-Lie, pour nous dire que la chanson « Encore et encore » de Laurence Jalbert, que je chanterai pas avec ma voix de marbre, mais tout le monde la connaît. Elle aurait été dédiée à Sandra Gaudet. Parce que à l'époque, j'ai lu un article là-dessus, Laurence Jalbert était en tournée. Puis, quand il est arrivé à Val-d'Or pour faire un spectacle, le procès de Sandra y était en cours. Puis, elle venait juste de décéder. Et encore, la chanson n'était pas encore terminée. Laurence Jalbert avait juste le refrain à ce moment-là. Puis, ça a l'air qu'elle a été extrêmement touchée par l'histoire de la petite Sandra. Et ça disait qu'avec l'accord, elle a rencontré la famille et les parents. Puis avec leur accord, elle a terminé la chanson, puis elle l'a dédiée à Sandra.
C'est beau.
Oui, c'est vraiment beau. Puis ça a l'air aussi, l'article disait qu'aujourd'hui, Laurence Jalbert traîne encore une photo de Sandra sur elle, genre dans son porte-monnaie, je sais pas. Puis qu'elle est encore en contact avec les parents. Je trouve ça vraiment à qui
moi...
Genre, j'entendrai plus jamais la chanson
non,
de la même
c'est
manière.
Ça. Hein, je savais trop pas.
Ouais.
Okay, non,
bref.
On fait pas ça.
Fait que voilà. Toutes les crimes de potin sur l'histoire de Sandra Gaudet, c'est débile mental. Tout ce qui est arrivé.
Ouais.
Alors, qu'est-ce que tu nous racontes, Hélène, cette semaine? Les gens le savent déjà quand ils cliquent sur le titre, mais moi, je ne
sais pas.
Non.
Écoute, je t'explique ce qui est arrivé. Dans le fond, j'avais une idée d'histoire que je voulais écrire. Puis là, j'avais écouté des épisodes d'une émission pour ça. Puis là, en fait, ce que j'ai écrit là, je pensais que ça allait être un épisode bonus pour Patreon parce que je pensais qu'il n'y avait comme pas beaucoup d'informations.
Mm-hmm.
Mais c'est vrai qu'il n'y a pas tant d'informations, mais en même temps, je suis comme tombée sur une autre affaire reliée là-dedans, puis j'ai comme combiné les deux. Puis ça fait comme un épisode. Puis c'est un meurtre irrésolu. Puis en l'écrivant, je me suis dit, les meurtres résolus, je pense que c'est important que ce soit des épisodes réguliers.
Ouais.
Parce que ça fait qu'on parle de l'histoire, oui. Puis que ça pourrait peut-être faire que l'enquête pourrait avancer. Ou faire, en tout cas, je trouve ouais, ça important, ouais. L'histoire irrésolue, d'en parler comme au plus grand public possible.
Mm.
Voilà. Alors, je te raconte le meurtre, en fait, les meurtres de Kelly et Glenda Morisseau.
OK.
Alors, dans mes sources, beaucoup de sources anglophones, CBC, le site de la police de Gatineau. C'est la deuxième fois que je l'utilise, ce site-là.
Gatineau.
Le Ottawa Citizen. Et deux documentaires de la chaîne APTN qui s'appelle, le documentaire c'est Taken, comme chaque épisode c'est comme sur une femme autochtone assassinée ou disparue.
Ok. Je sens que je vais pas l'aimer, en fait, cet épisode-là.
En plus, tu m'avais menacé de pas impliquer, que ça implique pas des enfants. Ben,
Hélène.
Pas, mais il y a comme un détail vraiment pas le fun.
Hélène!
J'espère que tu vas pas m'abandonner après cet épisode-là.
Elle arrête pas de dire à tout le monde que je l'ai menacée.
Je suis pas mal sûr si mot... on réécoute textuellement ce que tu as dit. Tu m'as menacée.
Le mot est un peu intense. Je suis très menaçante, la gang.
Puis, dans le fond...
Don't fuck with me.
Don't fuck with me. Ouais, c'est ça, en fait. J'ai décidé de faire ce soir-là parce que j'avais fait le meurtre irrésolu de Valérie Leblanc à Gatineau. Oui. Puis en fouillant dans l'histoire de Valérie Leblanc, j'ai vu qu'il y avait un autre seul meurtre irrésolu à Gatineau. Puis j'avais envie de regarder c'était quoi. Alors voilà, c'est le meurtre de Kelly.
Meurtre en amène un autre.
Ouais, voilà.
C'est vrai.
Alors. Ok, boy. Ok.
Vas-y donc.
On commence. Alors, on est à Gatineau le 10 décembre 2006.
Ok.
On était au secondaire.
On avait 16 ans.
Oui. OK. Alors, aux petites heures du matin, un homme se promène avec son chien dans le parc de la Gatineau. Encore dans le parc de la Gatineau. Comme
l'autre c'est le parc de la Gatineau?
Ouais.
OK.
Ouais.
Je connais pas tant ça, Gatineau. Je suis allée une fois chez tes parents, puis c'est tout.
Alors, on est dans le parc de la Gatineau, dans le secteur du stationnement P3. Donc, c'est proche de la rue Gamelin. Pour ceux qui connaissent Gatineau, là, c'est dans le secteur qu'on appelle le plateau.
Ouh.
C'est pas le plateau Mont-Royal, là, c'est le plateau, de Gatineau. À 5h40 du matin, l'homme qui promène son chien, il aperçoit une femme nue par terre dans une mare de sang. Il s'approche, est encore vivante.
Oh.
Elle s'accroche à la vie. Il appelle les secours tout de suite. Elle est rapidement transportée à l'hôpital, mais malheureusement, à peu près une heure après, succombe à ses blessures. Elle est décédée d'une hémorragie massive à la suite de multiples blessures causées par une arme blanche. Donc, elle a été poignardée.
Je sens que j'aimerais vraiment pas cet épisode.
C'est là que je te dis le détail, pas le fun. La victime, Kelly Morisseau, 27 ans.
Elle était pas enceinte.
Elle était enceinte de 7 mois.
7?
Et malheureusement, ils n'ont pas pu sauver le bébé. Non. Et elle était, en plus, elle était déjà mère de 3 enfants. Ok, ça, ça aurait été son 4e enfant. Ah.
Bon, je vais juste quitter.
Ouais, non, c'est vraiment triste. Mais c'était la seule twist enfant, et après ça, il n'y en a plus. Promis.
Mais même là, genre, c'est tellement triste.
Je sais, c'est vraiment triste.
Ok, continue.
Okay.
Collé.
Alors, je te parle de Kelly. Kelly, elle est née le 24 janvier 1979 à Fort Alexander, dans la nation Sac-Kin, au Manitoba.
Ok.
C'est ça, je pense que c'est la même nation d'où venait Tina Fontaine, qui était un épisode qu'on a fait.
Irrésolu aussi, passée. Non?
Ouais, irrésolu aussi. Mais qu'on pense qu'on sait c'est qui, mais finalement, ils ont comme pas réussi ils ont pas réussi leur procès contre lui, là. C'est ça. Donc, elle venait du Manitoba. C'est ça, dans une nation autochtone. Et elle était la plus vieille fille de Lisa Morisseau et Farron Cook. Alors, apparemment, elle avait un rire très contagieux. Dans le documentaire que j'ai écouté, là, genre, tout le monde parle de son rire. Genre, vraiment, comme, dit qu'elle riait tout le temps, puis que c'est comme tout le monde revient sur ça. Puis qu'elle faisait tout le temps des blagues. T'sais. En tout cas, c'est vraiment... Ça a l'air assez cute. Elle avait 3 enfants, donc Tanis, 12 ans, et 2 garçons dont je ne connais pas l'âge ni les noms. J'ai pas réussi à... Okay. Leur nom n'était pas dans les médias ou dans les documentaires.
Il y en avait un 4e en venir.
Oui. Malheureusement, dans les dernières années, Kelly avait comme un peu dérapé. Elle avait commencé à consommer et à parfois, donc à l'occasion, à devoir aller comme travailler comme travailleuse du sexe, dans le fond, pour s'en sortir. Elle avait perdu la garde de ses 3 enfants l'année précédente, en octobre 2005. Mais heureusement, c'est sa cousine Roxane, qui était comme... c'est un peu comme sa sœur. Ils se décrivaient comme des sœurs jumelles. Il y avait comme le même âge, là, genre à 3 mois de différence, puis ils ont vraiment comme grandi ensemble comme des sœurs. Mm. Puis c'est Roxane qui avait pris la garde de ses enfants au Manitoba, dans le fond.
Okay.
Fait qu'au moins, ses enfants étaient comme avec la famille. Elle savait qu'ils étaient en sécurité, qu'elle allait bien. Mais son but, c'était vraiment de retrouver la garde de ses enfants puis de reprendre sa vie en main parce qu'elle pouvait, elle était juste malheureuse sans ses enfants. Alors, en retournant à Manitoba, elle avait comme réussi à reprendre sa vie en main. Mais là, elle était récemment revenue à Ottawa. Puis c'est comme là qu'elle a reperdu le contrôle. Un de ses amis l'avait introduite au crack cocaine.
Puis boy.
Ouais, beau boy. C'est pas tant un bon ami. Pour ça, j'ai mis des guillemets. Ouais. Puis là, elle est vraiment retombée dedans. Elle avait recommencé à travailler comme travailleuse du sexe. Mais tu sais, elle était prise là-dedans, mais elle voulait quand même s'en sortir. Puis à Ottawa, elle avait un peu de famille et elle avait sa tante Doreen Morisseau qui habitait à Ottawa.
Okay.
Et qui était pas, au moins, elle était pas comme toute seule dans cette ville-là. Ce qu'on sait sur le meurtre. Donc, le 9 décembre au soir, vers 22h, Kelly Morisseau a été vue en train de quitter un appartement qui appartenait à un de ses membres de la famille. Donc, il ne disait pas, mais j'ai l'impression que c'est peut-être l'appartement où sa tante habitait.
OK.
Puis c'est à ce moment-là qu'elle a dit bye. Ça, c'était sur la rue Cyr, dans le quartier Vanier, à Ottawa. Puis ensuite, la dernière fois qu'on l'a vue vivante, je ne sais pas c'est qui le témoin, mais ce serait le 10 décembre 2006, vers 4h du matin, sur la rue Montford, dans le quartier Vanier, Ottawa. Donc, à 4h du matin, puis tu sais, à 5h40, on a retrouvé son corps.
Boy,
fait que vraiment pas longtemps après.
Elle était en vie à 4h.
Puis elle sortait avec quelqu'un d'un appartement sur la rue Montford. Fait que...
Oh!
Alors, elle était accompagnée d'un homme, puis elle a pris place dans sa voiture. Et, dans le fond, selon ce que l'enquête policière révèle, c'est que l'homme avec qui elle a embarqué, ça l'aurait probablement été pour des faveurs sexuelles, donc pour de la prostitution. Alors, c'est ça. Encore aujourd'hui, cet homme-là reste le suspect principal, mais il n'a jamais été identifié. OK? Mais on a quand même une description.
Faute de preuves, I guess?
Ouais. Mais en même temps, c'est ça. Moi, je vais finir, là, mais ce meurtre-là, moi, je pense qu'il est 100% résolvable. Genre, je pense qu'il peut vraiment être résolu. Genre, je pense qu'ils ont de l'ADN.
Mais ils attendent quoi?
De trouver le suspect.
Oh.
C'est pour ça que genre, c'est important d'en parler de ce cas-là parce que je suis sûre qu'il peut être résolu si, comme la bonne personne parle.
OK. Cas,
alors, continue, je te décris.
Je vais en savoir plus.
Je t'ai décrit le suspect, puis on mettra le portrait robot.
OK.
Alors, c'était un homme avec la peau blanche. Au moment, donc en 2006, entre 24 et 34 ans. De 82 à 91 kilos, donc 180 à 200 livres. Et entre 1,72 m et 1,77 m, donc 5 pieds 8, 5 pieds 10.
C'est quand même précis, mais ça peut quand même être vraiment beaucoup de jeunes.
Oui, vraiment. Il avait une stature athlétique, les cheveux blonds, courts et frisés. Et il s'exprime en anglais et en français.
OK.
Quand même une bonne description.
Ouais, c'est une bonne description.
Puis, en plus, on a son véhicule de l'époque.
Ah!
Alors, c'est un Oldsmobile Cutlass Sierra ou Calais. Je peux pas
j'ai
dire.
Aucune des questions qui viennent.
Mais bref, okay. Ceux qui connaissent les voitures. Datant de 85 à 90, donc quand même un vieux véhicule.
Ouais.
De couleur blanc, gris pâle ou argenté.
OK.
Avec des enjoliveurs à rayons, aucune trace de rouille et était en excellent état et très propre.
OK. C'est quand même... on a beaucoup de choses.
C'est ça, on a beaucoup de choses. Là. Vraiment. Là.
C'est beaucoup de témoins qui ont rassemblé toutes ces informations-là.
En fait, je pense aussi qu'il y avait des tas de vidéos.
De caméras de surveillance.
De caméras de surveillance qui ont permis à la police de donner encore plus de détails. Okay. Là, mais c'est ça, je sais pas. C'est sûr qu'il y avait des témoins oculaires aussi là-dedans. Oui. Là. Le véhicule suspect et l'individu auraient été observés dans le quartier Vanier à Ottawa dans les jours précédant le meurtre. Fait que c'est probablement qu'il habitait dans le quartier Vanier. Là.
Pas mal sûr qu'il habite plus là.
Ouais, s'il est pas trop cocombe, il habite plus là.
En même temps, on aimerait ça qu'il soit un peu cocombe.
Ouais. Ensuite, d'autres preuves qu'ils ont trouvées, des objets appartenant à Kelly ainsi que des éléments de preuve. Moi, ils disent pas c'est quoi les éléments de preuve, mais me doute peut-être une arme du crime ou quelque chose de même, ont été retrouvés dans le ruisseau des Frênes, près du boulevard du Plateau à Gatineau. C'est à environ 1 km de la scène de crime.
OK.
Genre, je connais vraiment ce coin-là de Gatineau. Là. Genre, je suis allée acheter des trucs au Provigo, genre à Noël, là, quand je suis passée. Je pensais okay. Là. C'est
oh my God.
Direct là, genre, qu'ils ont trouvé des indices. Là, genre.
Eh?
Je connais vraiment le coin. En 2016, il y a comme un suspect intéressant qui est apparu, Marc Leduc. Peut-être qu'on fera un épisode sur lui à un moment donné, parce qu'il était arrêté pour 2 meurtres. Pamela Kozmak en 2008 et Leanne Lawson en 2011. Et tout comme Kelly, les deux étaient connus pour travailler comme travailleuses du sexe occasionnellement. Et puis il y aurait eu d'autres similarités en plus entre les meurtres et celui de Kelly. Mais la police a bien investigué ce suspect-là, mais finalement, ça n'a rien donné.
Merde!
Et là, 10 ans plus tard, donc en 2016, la police fait des nouvelles révélations. C'était comme les 10 ans du meurtre. Fait que là, la police, dans le but de faire avancer l'enquête, ils font des nouvelles révélations. Fait que, tu sais, la police, ils gardent tout le temps des preuves puis des indices comme ouais. Cachés pour savoir si un jour quelqu'un vient avouer le meurtre, ben ils peuvent contre-vérifier s'il y a les bonnes informations ou pas qui sont jamais sorties au public, dans le fond. Les hold back evidence qu'ils disent en anglais.
Ready for a career in behavioral health? Earn your online degree at Herzing University. Choose from health and human services, psychology, or social work programs. Gain the skills to work, coordinate, and manage nonprofits. Secure a bachelor's in psychology to study mental health or advance your social work career through our online Masters of Social Work. Let us help you become a social change agent. Your future starts now at Herzing University. Text HEALTH to 85109. That's HEALTH to 85109. Or visit herzing.edu.
Alors, qu'est-ce qu'il révèle? Le suspect principal aurait emprunté une route qui servait de voie de service pour les véhicules d'urgence pour sortir du stationnement P3 entre 4h et 5h40 le matin du 10 décembre 2006. C'est le chemin qui mène jusqu'au boulevard Saint-Raymond. Aujourd'hui, c'est une piste cyclable et un chemin piéton. Il n'y a plus de véhicules qui passent là aujourd'hui, mais à l'époque, ça okay. passe encore. Il n'aurait pas seulement laissé des effets personnels de Kelly dans le ruisseau, mais aussi derrière le multiplex cinéma au 115 boulevard du Plateau. Donc, le suspect serait sorti à plusieurs reprises de son véhicule pour se débarrasser des preuves.
Ah, il est dispersé.
Oui, c'est ça. Il a fait plusieurs okay. arrêts là, dans le même petit coin. Là. Et un détail de l'autopsie qui n'avait pas été révélé. Kelly se serait débattu vigoureusement, au point que les policiers sont pas mal certains que le suspect devait être blessé après l'attaque. Et là, moi, c'est quand j'ai lu ça, je me suis dit, ils ont de l'ADN.
C'est sûr
moi, je
que
pense
oui.
qu'ils ont du sang du suspect. Puis c'est pour ça qu'ils ont pu blanchir l'autre qu'ils ont pensé pendant un moment. Là,
ouais.
Parce qu'ils ont dû comparer son ADN. Ça devait... fait que, moi, c'est pour ça. Ça, là, quand j'ai lu ça, je suis comme, ce meurtre-là, il est 100% résolvable. Genre, c'est sûr.
Ça veut dire qu'on attend juste parce que le suspect, le meurtrier, il n'est pas dans la banque d'ADN. S'il c'est y en a sûr. Fait qu'on attend juste qu'il fasse de quoi.
Oui. Faut que quelqu'un leur donne le nom du suspect qui puisse comparer les preuves qu'ils ont, puis boum.
Ou on ne sait jamais s'il commet un autre meurtre ou il fait quelque chose d'autre, il va être dans la banque d'ADN et voulant.
S'il se fait pogner pour, se fait pogner pour d'autres choses, oui.
OK. Il y a vraiment espoir, là.
Vraiment, vraiment. C'est pour ça que j'étais comme, j'écrivais ça, puis j'étais comme, OK, non, ce sera pas un épisode Patreon, j'ai besoin de le dire au grand public, ce cas-là. Puis là, quand tout ça s'est sorti, par exemple, les amis puis la famille de Kelly étaient comme pas mal fâchés d'apprendre que la police avait gardé ces informations-là secrètes parce qu'ils pensent que ça aurait pu aider à retrouver le suspect, tu sais. Juste de savoir qu'il avait passé par ce chemin-là. T'sais, si quelqu'un, ce matin-là, avait dit « Hey, moi, j'ai vu un véhicule. »
Ah, parce qu'il est sorti par le truc d'urgence?
Ou même « Ah, qui est allé derrière le cinéma. » Ben, si quelqu'un était comme proche du cinéma puis il a vu ce matin-là quelqu'un, tu sais, ça aurait comme pu...
Mais là, 10 ans plus tard, c'est un peu trop tard.
Ben, c'est ça. Les gens se rappellent plus. Tu te rappelles-tu qu'est-ce que tu faisais le matin du 10 décembre 2006? Ouais. Moi, non.
Aucune idée.
C'est ça. En 2021, donc vraiment récemment, une récompense atteignant 50 000 $ est offerte par Jeunesse au Soleil pour toute personne qui fournirait une information menant à l'arrestation et à la condamnation des personnes responsables de cet assassinat.
Est-ce que c'est encore d'actualité?
Oui, c'est encore 50 000 $ qui est offert pour toute personne qui pourrait faire avancer l'enquête.
OK.
Puis, bon, voilà, ça c'était... le meurtre de Kelly. Toujours irrésolu aujourd'hui. Très...
résolvable.
Très résolvable. C'est un mot, résolvable? Je sais pas si c'est un mot. Ça m'énerve depuis tantôt. Très... oui! Non, résoluble. Résoluble.
Résoluble. Mais oui,
bon, je m'excuse, là, je disais un mot qui n'existait pas depuis tantôt. Là. C'est résoluble. On l'a googlé. Ça commence à m'énerver.
OK.
Alors, voilà, si n'importe qui d'entre vous y pense peut-être avoir n'importe quelle information, même si vous pensez que c'est peut-être stupide, mais dites-le pareil aux policiers. Ça pourrait faire débloquer les choses. On sait jamais.
On sait jamais.
On sait jamais. Voilà.
Go, go, go. Partageons le mot.
Oui, partageons le mot. Si vous connaissez quelqu'un qui habitait dans le quartier Vanier en 2006 à Ottawa, parlez-lui-en. Mm. On sait pas. Peut-être. OK. Et là, donc, en cherchant ce cas, on se rappelle que les femmes autochtones sont surreprésentées comme victimes de meurtres et actes criminels au Canada. Mm-hmm. Donc, 4 fois plus à risque que toi et moi. C'est fou.
Ça n'a aucun sens.
Ça n'a aucun sens. Ben, c'est ça. En recherchant l'histoire de Kelly, ben, j'ai trouvé un... comment bien illustrer ce fait-là. Ben, dans cette famille-là, chez les Morisseaux, Kelly n'est pas le seul meurtre irrésolu. Il y a aussi sa tante, Glenda Morisseau, qui a été assassinée en 1991. Alors, je te raconte son histoire.
Oh, voyons donc.
Ouais. Ça n'a pas de sens.
Ça en fait 3 quand tu penses, parce qu'elle était enceinte. Kelly.
Ouais. Ouais. En 91, Glenda Morisseau avait 19 ans. Elle avait un frère, Mitchell, et 2 sœurs, Lisa et Doreen. Donc, Lisa, c'était la mère de Kelly. Et Doreen, c'est la tante de Kelly qui habitait à Ottawa. Elle habitait avec sa mère, Evelyn Morisseau, et son beau-père. Glenda était décrite comme une jeune femme joyeuse, amicale, qui était dans une bonne relation amoureuse cette année-là. Elle était belle, populaire, puis elle avait un rêve. C'était de partir un band de musique avec seulement des femmes autochtones.
Oh.
Tu sais, en 91, là, les droits des autochtones, on n'était pas là.
Non.
On était très loin. Et sa meilleure amie, Rebecca Chartrand, raconte qu'elle avait mis tout son argent sur une guitare électrique blanche.
Oh.
Je trouve qu'elle avait vraiment l'air cool. Ça.
Vraiment?
Juste arrêter mon amie.
Dans un band de girls, en plus.
Elle aimait sortir, mais était quand même souvent à la maison, tranquille, très proche de sa famille. Et quand elle était enfant, son surnom, c'était Boogeyman. Parce que quand elle était petite puis qu'on lui donnait pas d'attention, elle allait poquer les gens puis elle disait « C'est le Boogeyman! »
C'est bien cute. The Boogeyman Band.
Oui. Alors, le 17 juillet de cette année-là, donc en 1991. Oui, puis tout ça, je ne l'ai comme pas dit, mais on est à Winnipeg.
Ah, OK. Ouais.
Dans le fond, parce qu'elle aussi, elle vient de la nation Sakine, qui est proche de Winnipeg, dans le fond, Manitoba. Alors, le 17 juillet, elle sortait cette soirée-là. Et d'ailleurs, Kelly et sa cousine Roxane, ils ont dit bye quand partait cette soirée-là. Ils l'ont vu pour la dernière fois. Donc, elle sortait pour aller jouer au billard et boire des bières avec sa sœur, Doreen, sa mère et son beau-père, puis aussi des amis, à l'hôtel Stock Exchange sur l'avenue Arlington et Logan à Winnipeg.
OK.
Alors, ceux qui connaissent Winnipeg, ça a l'air que ça se passe dans un hôtel. C'est quand même drôle. Au lieu que le bar de l'hôtel, c'est là que ça se passait en 91. Ça a l'air. À la fermeture du bar, Doreen ramène Glenda chez elle. Au 77 avenue Logan, il était environ 2h30 du matin. Bon, je pense, c'est, mettons, dans le documentaire que j'ai écouté, il disait pas explicitement que les deux étaient bien chaudes, mais j'ai l'impression que oui. Qui est bien normal. Ouais, on est déjà venu.
Tu sors du bar à 2h30, il y a des bonnes chances.
Oui, c'est ça. On connaît ça. Alors, là, ce qui est arrivé, c'est qu'il était comme arrivé à la maison, puis là, Glenda était comme à côté sur la clôture, pendant que Doreen allait essayer de débarrer la porte. Ça devait être un peu saoul, puis comme en essayant de débarrer la porte, ça a pris comme un peu de temps. Puis là, pendant ce temps-là, elle a entendu une voiture s'arrêter, puis repartir rapidement. Puis quand elle s'est retournée, Glenda était plus là.
Hein?
Ouais. Fait que pendant qu'elle essayait de débarrer la porte, dans le fond, Glenda s'est comme fait kidnapper.
OK, ouais, c'est ça qui était en boisson, parce que là, tu te rends pas compte que...
Oui, c'est ça. Tu sais, je pense que les deux étaient toutes... Ouais, ouais. Étaient bien en slow motion, bien garlot. Fait qu'ils ont comme pas... T'sais, elle a comme pas réagi.
Aïe, et tu dois-tu t'en vouloir? Ah, c'est triste.
Donc, vraisemblablement, son meurtrier serait la personne au volant de cette voiture. Alors, au moins, elle a vu la voiture qui était... Un modèle plutôt ancien, un station wagon.
OK.
Comme, ça, c'est vraiment un char des années 80, ouais. Là, qu'on, t'sais, foncé. Puis le conducteur, c'était un homme d'âge moyen, là, genre 30-40. Là.
OK.
Ensuite, sa famille a rapporté sa disparition et, bon, là, directement, la police a assumé que c'était une prostituée.
Ben oui.
Ben oui, elle était autochtone, puis elle faisait le party. C'est sûr. Hein? C'est sûr.
Ouais,
franchement, c'était genre une jeune femme qui voulait être...
À 19 ans, t'as vu?
Ouais.
Collé.
Elle ne travaillait pas comme travailleuse du sexe, non. Alors, pendant des semaines, la famille cherche. Et c'est finalement le 7 août, donc quelques semaines plus tard, que les policiers sont arrivés au domaine familial. Et ont demandé qu'est-ce qu'elle portait et de quelle couleur étaient ses ongles. C'est là qu'ils se sont doutés qu'ils l'avaient retrouvée. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a des employés d'un chantier qui l'ont découvert. Donc, c'est dans le secteur industriel de Saint-Boniface à Winnipeg, au bout de la rue Youville, proche de la rivière Seine. Comme la Seine à Paris, mais ça a l'air qu'il y a une Seine à Winnipeg. Peut-être un peu moins cute que Paris.
Ouais, malgré que c'est beau, Winnipeg.
Je suis jamais allée.
Moi non plus, j'ai vu des photos.
Mais ça, c'était comme dans un secteur industriel. Fait que, c'était peut-être pas super cute. Là. Alors, son corps était assez décomposé, donc ça faisait probablement plusieurs jours qu'il était là. C'était l'été en plus. Elle était vêtue seulement d'un t-shirt, de son jacket puis de ses bas, donc elle avait rien, était nue à partir de la taille. Ses mains étaient liées dans son dos.
Mmh.
Et son crâne avait été fracassé avec un bloc de béton. C'est ce qu'on croit qui a causé la cause du décès. Puis en plus...
Mais voyons donc!
C'est dégueulasse, là.
J'ai mal au cœur. Calique.
Ouais, c'est rough, là. Une autre phrase de détail morbide, là. Dans le fond, elle avait aussi été sévèrement battue. Elle avait des os fracturés dans le visage. Et les policiers pensent aussi que la scène de crime, c'est probablement pas là où on l'a retrouvée, que ce serait probablement dans la voiture. Puis ils pensent aussi qu'elle est morte depuis le jour de son enlèvement. Là, qu'elle n'a pas vécu plus longtemps. Là. Ça faisait plusieurs semaines qu'elle était
séquestrée. Non, c'est ça.
La police est convaincue que la motivation du crime était sexuelle. Elle pense aussi que le meurtrier n'avait pas nécessairement l'intention de la tuer au départ, que c'était vraiment comme un crime sexuel.
Mm-hmm.
Puis que finalement...
Il n'a pas eu le choix,
Que ça a comme viré... En tout cas, ça, c'est la théorie des policiers. Là.
Okay.
Et ils pensent aussi que le meurtrier devait bien connaître le quartier de Saint-Boniface. Parce qu'il connaissait ce coin-là où il pouvait laisser un corps. Là, c'était pas un inconnu de Winnipeg. Là. Malheureusement, l'enquête n'a jamais mené à aucune arrestation ni suspect sérieux. En 2014, le projet Devote a été créé. C'est une coopération entre la police de Winnipeg et la GRC pour enquêter sur des meurtres irrésolus. Donc, ils regardent ce meurtre-là un peu plus sérieusement depuis 2014. J'ai lu ça. Quand Russell Williams, on se rappelle, le colonel tueur, colonel tueur en série, a été arrêté, la famille et la police se sont demandé si ça pourrait pas être le meurtrier de Glenda parce que son meurtre s'est passé pendant une période de 2 ans où Russell Williams était au Manitoba comme instructeur pour les forces canadiennes.
Oh shit!
À l'école de portage.
Okay.
Une école à Portage de la Prairie.
Puis ça a rien mené.
Non. C'est comme la seule hypothèse que j'ai lue genre dans tout ce que il y avait pas beaucoup d'articles à propos de ça là, mais c'est comme une des seules hypothèses.
Est-ce que là, on se demande est-ce que c'est parce qu'ils ont vraiment pas assez de preuves puis vraiment pas assez d'informations ou c'est parce qu'ils se donnent juste pas la peine ou
sont pas donné la peine à l'époque, ce qui se peut très bien.
Il y a peu de chances.
C'est qu'aujourd'hui, s'il y a pas assez de preuves dans le dossier, même s'il y avait un bon suspect, est-ce qu'ils réussiraient à le prouver? C'est ça, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont comme preuve là, ils ont-tu de l'ADN, que son meurtre est toujours irrésolu aujourd'hui, mais la police de Winnipeg fait dire qu'il est jamais trop tard pour recevoir des informations, puis que c'est plus important que jamais de divulguer toute information, même si elle peut paraître anodine. Mm. Genre une conversation entendue, une telle personne était à tel endroit à tel moment. Et si vous visitez Winnipeg aujourd'hui, son visage est sur une fresque en dessous du viaduc de l'avenue Portage, avec d'autres visages de femmes autochtones assassinées. Et je ne sais pas pleurer en disant. Pour finir, Rebecca, la meilleure amie de Glenda, a dit que elle serait vraiment fière des jeunes autochtones aujourd'hui, puis que les choses ont quand même évolué, et qu'il y a quelques années, elle avait vu un band formé que de femmes autochtones.
Ah, oh, puis ça lui a fait penser à elle.
Elle s'est dit que Glenda serait vraiment fière.
Oh, c'est bien cute.
Oui.
Hélène a pleuré. Oui. Oh.
Voilà.
Hey, j'en reviens. La pauvre famille Morisseau.
Ça n'a pas de sens, là.
Ça n'a aucun bon sens.
Deux meurtres irrésolus dans la même famille.
C'était 91 puis 2006. Mm. C'est pas tant long, là.
Non, en 15 ans. Puis, tu sais. Comment ça s'appelle? Doreen? C'est la dernière personne à avoir vu les deux. Eh? Oh my god. Voilà. C'est ça. Je suis comme tombée là-dedans. Puis là, quand j'ai vu... Tu sais, je cherchais les informations sur Kelly. Puis là, je suis tombée sur le truc de Glenda. Puis j'étais là, je peux pas parler de Glenda. Ben. J'étais comme, OK, là, faut que je combine un épisode, les deux.
T'as bien fait.
Oui.
Parce que moi, j'étais zéro au courant de ces deux meurtres-là.
Non, c'est ça, on a vraiment...
Puis je veux dire, pour des personnes qui baignent dans des trucs de meurtre.
Ouais. Puis tu sais, je veux dire, le meurtre d'une femme enceinte à Gatineau...
qu'on n'en a pas entendu parler. En 2006, oui. En plus. Là.
Oui, ça, genre, pourquoi on n'en a pas entendu plus parler? Ben clairement, parce qu'elle était autochtone. Mm. C'est la seule raison.
Mais là, c'est quoi l'hostie de rapport?
Aucun.
C'est quoi le rapport?
Racisme.
C'est quoi? Il y a genre une nouvelle, mettons, il y a quelqu'un qui appelle un reporter, puis il dit il y a ça qui vient d'arriver, une femme autochtone, nanana, puis ils font ah, on n'a personne à envoyer sur place, genre on n'a personne à.
Ben, c'est sûrement qu'il y a
pas un journaliste.
Non, mais tu sais, il y a des petits articles qui sortent, mais tu sais.
Ouais, des mini, mais rien de.
Non, c'est ça. C'est le syndrome de la femme blanche. La belle petite blonde qui se fait assassiner, on va en parler pendant des semaines, des mois, des années, puis.
C'est les autres, frustrant. Non. Ah, c'est frustrant.
Vraiment. Fait que voilà, c'est important d'en parler.
Vraiment. Mm. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, tout le monde.
Oui, merci beaucoup.
Merci, Hélène.
On va aller essayer de se remonter le moral après ça.
Ça va, nous.
Ouais. Si vous voulez vous remonter le moral aussi, vous pouvez aller vous abonner à notre Patreon et écouter plus d'épisodes.
Plug, toi!
J'ai encore les larmes à l'œil, puis genre, je plug notre Patreon.
Allez, abonnez à mon Patreon!
C'est ça. Sinon, continuez à nous écrire. C'est ça. Non, on vous aime!
On s'apparaît-tu qu'on sait jamais comment conclure nos épisodes? Ouais. On finit l'histoire, puis on est là. Voilà. Okay,
voilà.
Voilà, c'est la fin. Point. On est vraiment nul là-dessus. Après quoi, 60 épisodes quasiment qu'on est rendu?
Ça, oui, c'est le 60e.
Is it?
Oui!
Félicitations!
Félicitations-nous!
Félicitations-nous!
Ouais.
On est-tu bonnes?
Ouais.
Et qu'on est
bonnes. On est des vrais pros.
On est vrais pros.
Écoute, on n'a aucun micro sur mute.
Non!
Non!
Crime! Ouais. On est en feu!
Ouais,
on vraiment. Enregistre comme. De la bonne manière.
Ouais, on n'a même pas eu à demander à mon chum de nous setter la console.
Même pas à ton résident Airbnb non plus.
Non plus à mon coloc.
qui nous a aidé la dernière fois. OK, bon, mais merci beaucoup de nous écouter. On vous aime très fort. Passez une belle semaine.
Oui.
Bye.
À la semaine prochaine. Bye.